Alors, toujours dans l'étude de la formation du contrat, nous voyons la rencontre de l'offre et de l'acceptation. Le contrat se forme parce qu'une offre rencontre une acceptation. Et pour voir cette question, je suis avec Laure Lavorel. Bonjour Laure.
Bonjour Bruno.
Voilà, Laure Lavorel qui est directrice juridique de la société CA Technologies ou CA Technologies, donc, et directrice juridique EMEA. Est-ce que vous pouvez expliquer pour ceux qui ne le sauraient pas ce que veut dire EMEA, Laure?
Alors EMEA, ça signifie Europe, Middle East, Moyen-Orient et Afrique.
D'accord. Donc, périmètre d'intervention large. Laure, donc, vous avez été avocate, vous avez été jusqu'à très récemment juge consulaire, c'est-à-dire juge au tribunal de commerce de Paris, et donc vous êtes aussi directrice juridique dans une société qui intervient dans quel domaine?
Alors, CA Technologies, c'est une entreprise qui intervient dans le domaine des logiciels, et aujourd'hui plutôt le numérique, comme on aime l'appeler.
D'accord. Et donc, vous vous intéressez aussi, bien sûr, dans votre activité, et au titre de chacune de vos activités, je pense que vous vous êtes intéressé au droit des contrats. Et nous allons donc évoquer cette question de la rencontre de l'offre et de l'acceptation. Alors, nous avons, dans les textes tels qu'ils résultent de l'ordonnance du 10 février 2016, nous avons une série d'articles qui sont consacrés précisément à cette question de l'offre et de l'acceptation. Article 1113 et suivant, donc on va, alors que le Code civil ne s'intéressait pas à la question, pour le Code civil, oui, le Code civil appréhendait la question des vices du consentement, mais ne voyait pas cette question de la rencontre de l'offre et de l'acceptation. C'est un travail doctrinal et jurisprudentiel qui a défini les solutions en la matière, et ces solutions, on les trouve, alors, pour beaucoup consacré dans ces articles 1113 et suivants, l'article 1113 que nous voyons maintenant, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Bon. Nous n'allons pas voir tous les articles, mais retenons que des solutions qui étaient parfois sur lesquelles on avait des incertitudes, théorie de l'émission ou théorie de la réception de l'acceptation, eh bien, on vient nous dire par exemple que le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Donc on a une consécration de la théorie de la réception de l'acceptation. D'autres solutions qui sont des solutions qui peuvent sembler de bon sens se retrouvent par exemple sur l'obligation de maintenir son offre pendant un délai au moins raisonnable avant de la rétracter. Et nous allons nous intéresser à une question particulière avec vous, Laure, qui est la question du silence et de la formalisation qui peut finalement donner, enfin, accepter une offre dans une entreprise. Donc première question, celle du silence. Nous avons un article 1120 qui nous dit que le silence ne vaut pas acceptation à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières. Donc premier principe qui est posé, le silence ne vaut pas acceptation. Donc c'est une solution qui a été posée par la jurisprudence. Il y a un arrêt ancien de 1870 de la Cour de cassation qui nous dit que eh bien, l'adage qui ne dit mot consent n'a pas valeur juridique, du moins pas en principe. Donc l'idée, ça serait que j'adresse à votre entreprise une offre de service, de prestation de service, et vous ne répondez pas. Est-ce que votre entreprise est engagée?
Alors, je trouve que c'est un sujet très intéressant parce qu'en pratique, et peut-être que l'ordonnance a cette vertu-là, et en pratique, on consacre en fait le silence. C'est-à-dire qu'il y a dans des relations d'affaires nourries et entretenues avec ses partenaires commerciaux, très souvent, des silences qui sont des consentements. Ce que je trouve intéressant dans ce nouveau texte, c'est qu'il est plus proche de la réalité. Notamment, alors, pour les contrats à exécution successive, bien entendu, mais quelle est la différence parfois entre un contrat à exécution successive et plusieurs contrats qui s'enchaînent? Lorsque vous êtes dans un contrat cadre et que vous avez différents bons de commande, ces bons de commande sont issus, vous ne collectez pas le consentement nécessairement de votre partenaire commercial, mais après l'exécution du contrat intervenant, on en conclut que le silence de l'autre partie a signifié son acceptation.
D'accord, donc c'est vrai qu'on pourrait avoir une exécution du contrat qui vaut acceptation. Alors d'ailleurs, le texte, c'était l'article 1113, nous disait que la volonté, y compris de l'acceptation, pouvait résulter d'un comportement non équivoque de son auteur. Donc c'est vrai que si j'exécute le contrat, c'est un comportement non équivoque, peut-on penser. Je ne vais pas dire après, mais finalement, non, je n'ai jamais formalisé mon acceptation. Donc ça, c'est une question qui est effectivement importante. Finalement, les solutions qui sont consacrées par l'article 1120, ce sont à peu près les solutions de la jurisprudence, la loi, les usages, les relations d'affaires ou des circonstances particulières. On ne retrouve peut-être pas tout, c'est-à-dire qu'une solution comme celle qui consistait à dire que lorsque finalement l'offre était dans l'intérêt exclusif de celui qui la recevait, eh bien il était présumé l'avoir acceptée, mais c'est vrai que c'est une solution qui est un peu compliquée à envisager. Autre question que nous allons évoquer, c'est la question de qui finalement peut émettre l'offre et l'acceptation. Dans une entreprise comme la vôtre, est-ce qu'il y a une seule personne qui a le pouvoir d'accepter une offre ?
Alors, bien entendu, non, parce que les entreprises internationales, alors après, peuvent être de taille variée, mais vous avez des grandes et des petites entreprises. Vous avez évidemment des secteurs d'activité différents. Chacun va engager son département, son équipe sur des projets, et ces projets sont gérés par des contrats. Et ces directeurs, en général, ne sont pas, bien entendu, représentants légaux, mais n'ont pas non plus de pouvoir pour engager l'entreprise. Alors, doit-on considérer que malgré tout, s'ils font une proposition commerciale et qu'elle est acceptée, le contrat est conclu? Bien entendu, et c'est la théorie de l'apparence qui aujourd'hui est consacrée ici. Et je crois que là aussi, il faut être raisonnable, c'est la pratique. Et le fait de la consacrer est important, parce que le contraire serait gênant pour la démarche des affaires.
Bien, donc il est important de retenir que la réforme consacre une dizaine d'articles désormais à la question de l'offre et de l'acceptation, qui sont des questions qui précédemment n'étaient pas traitées par les textes du Code civil. On est toujours dans l'idée d'avoir un droit qui soit plus accessible, plus clair. Il suffira maintenant d'ouvrir le Code civil pour avoir accès au contenu du droit français des contrats sur ces questions, plutôt que de devoir aller chercher, faire une recherche en jurisprudence ou aller consulter différents manuels pour avoir le contenu du droit positif.
Oui, alors cela dit, tout de même, et encore une fois, nous n'avons pas expérimenté ce nouveau texte, mais tout de même, ces articles peuvent aussi donner lieu à interprétation. Donc je ne sais pas si nous n'allons pas avoir à subir quelques années de jurisprudence, à scruter quelles sont les décisions des tribunaux pour voir si ces textes sont si limpides qu'ils ont l'air et si finalement c'est bien la pratique qui est consacrée ou si les magistrats l'entendent différemment.
Très bien. Laure, je vous remercie.
Je vous en prie.